Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Léa Capuano, Arjuna Andrade, Iseut Sicard et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième épisode de notre série consacrée à la viande dans tous ses étals. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'industrialisation de la viande, devenue un bien de consommation de masse après la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 60, l'élevage s'intensifie encore et les exploitations géantes apparues aux États-Unis se généralisent, menaçant à la fois l'environnement et la santé des consommateurs. Alors comment l'industrie de la viande s'est-elle peu à peu déconnectée de l'agriculture traditionnelle ? Le modèle de l'élevage industriel est-il soutenable à l'échelle de la planète, alors que la consommation de viande dans le monde ne cesse d'augmenter ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez l'écho du bétail. Nous allons parler du marché de la viande avec Jean-Paul Simier, économiste, co-auteur du rapport Cyclope sur les marchés mondiaux en charge du marché de la viande, et en duplex de Montpellier avec Jean-Louis Rastoin, professeur émérite à Montpellier Subagro et directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
L'objet de cette conférence, c'est d'établir un marché régulier de la viande qui permette d'approvisionner dans des conditions régulières tous les Français et en particulier les Français des régions industrielles et des grandes cités populaires. Car nous le savons bien, le marché de la viande a été, depuis le début de la liberté d'achat à la production jusqu'à ce jour, un marché qui n'a pas été sain dans toutes ses parties.
Lorsque j'ai pris la situation des grands centres, celle de Marseille, de Lyon, de Paris, j'ai constaté qu'il y avait une chose qui ne pouvait plus durer, c'est que ces trois villes demeurent privées de viande fraîche et continuent à recevoir des conserves dont on ne peut pas dire le plus grand bien. J'ai pensé qu'il fallait d'abord tout de suite faire un effort, même par des méthodes empiriques, pour essayer de donner de la viande fraîche à ces grandes villes.
Bonjour Jean-Paul Simier, Jean-Louis Rastoin. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons entendu Julien Racamon, syndicaliste à la CGT, puis le ministre du Ravitaillement, Yves Farge. Il s'exprimait lors de la Conférence nationale de la viande organisée en juillet 1946. Alors ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une partie de la France souffre d'une pénurie de viande. Il faut alors relancer le marché, Jean-Paul Simier.
Oui, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, manger de la viande, c'est un acte banal. Ça fait partie du quotidien. Vous avez de la viande qui est de moins en moins chère, en particulier la viande de volaille. Mais à l'époque, après la guerre, non seulement les Français sortent du ravitaillement avec des tickets de rationnement, mais en plus, la viande reste un bien de, pas de luxe, mais en tout cas, un bien dont on ne peut pas forcément tous les jours consommer en quantité importante. Donc, c'est un enjeu politique et on voit d'ailleurs déjà la caractéristique essentielle de ce produit qu'est la viande, qui est à la fois un produit agricole mais aussi, enfin surtout alimentaire, parce que c'est déjà un produit transformé. Il est au cœur des préoccupations en permanence des politiques, alors bien sûr en France, mais aussi après dans le cadre de la communauté économique européenne qui viendra à l'Union européenne et puis aussi maintenant le marché mondial.
Il y a une mobilisation importante des politiques sur ce sujet à partir de 1945, Jean-Louis Rastoin, notamment parce que les populations de bœuf et de porc ont alors largement diminué par rapport aux années 30.
Oui, tout à fait. On est en reconstruction économique et sociale. Il y a de lourds déficits. Il y a pas l'autosuffisance, hein. Donc l'autosuffisance, ça va devenir d'ailleurs la première brique de la construction européenne avec le marché commun qui précisément indique qu'on doit parvenir à l'auto-approvisionnement de l'Europe, ce qu'on a réussi. Donc finalement, en l'espace de 50 ans, même un peu moins, on est passé d'une économie de pénurie, de la plupart des produits agricoles d'ailleurs, pas seulement la viande, à une économie de satiété. Une économie d'abondance. Et on est à la veille d'une nouvelle évolution, un nouveau changement de trajectoire qu'il faut affronter avec lucidité.
Et alors, c'est pendant les Trente Glorieuses que l'élevage va véritablement connaître son essor. Et notamment, c'est l'introduction de l'insémination artificielle qui va provoquer une petite révolution dans le monde de l'élevage, Jean-Paul Simier.
Oui, vous avez une évolution très lente finalement. Pendant longtemps, l'élevage, les animaux sont en compagnie des hommes. Hein. Depuis la nuit des temps, l'homme mange de la viande. L'élevage a été inventé au néolithique, 10 000 ans avant Jésus-Christ. On a domestiqué des espèces animales, le chien et puis les animaux de rente, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire la vache, le cheval. Mais jusqu'à l'aube du XXe siècle, finalement, les animaux servaient surtout à la traction, à fournir de la laine. Finalement, la viande n'était qu'un coproduit, je dirais pas accidentel, mais parmi d'autres de l'élevage. Et puis, à partir du début, à la fin du XIXe siècle, d'abord d'ailleurs en Angleterre, qui a inventé une partie de l'agriculture moderne et en particulier l'élevage moderne à travers la sélection des races, et puis ensuite aux États-Unis, on a vu arriver ensuite, plus tard en Europe et finalement en France, avec le plan Marshall, là aussi la reconstruction après la guerre, le développement de techniques modernes dans le domaine de l'agriculture et en particulier de l'élevage. Donc la maîtrise des races, la sélection des races, et puis encore plus tard, effectivement, l'insémination artificielle. Mais ça, c'était déjà, j'allais dire, dans les années 70. Il y avait déjà eu, et dans ces années, on a fait un grand plan de l'élevage, loi d'orientation de l'élevage, avec un ministre de l'agriculture qui est resté célèbre dans l'histoire de l'agriculture française, qui est Edgar Pisani, qui avait notamment accéléré la modernisation de l'agriculture, parce qu'à l'époque, on expliquait que l'agriculture traditionnelle, l'agriculture paysanne, n'était pas assez moderne, elle n'était pas assez productive. Il fallait produire plus et surtout moins cher. Et donc, d'où l'appel à ces technologies, à ces techniques.
Alors, les technologies progressent et puis les techniques d'élevage également. La stabulation libre, par exemple, commence à se développer dans les années 60, Jean-Louis Rastoin.
Oui, tout à fait. Il y a eu un changement radical de modèle technique. On est rentré dans l'ère du productivisme. Auquel il ne faut pas jeter trop la pierre, hein, parce que selon le contexte de l'époque, il fallait être le plus productif possible. Alors effectivement, il y a quatre piliers. Hein. Le premier, c'est la génétique et la sélection pour de meilleurs rendements en viande et en lait. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation animale pour améliorer la performance de la transformation en viande ou en lait de ce que l'animal ingère. Le troisième pilier, ça va être la médecine vétérinaire, la prophylaxie, la vaccination, etc. Et le quatrième pilier, les techniques d'élevage, et notamment l'apparition de la stabulation.
Donc c'est système traditionnel qui consistait à entrer les animaux à l'étable tous les soirs, c'est cela ?
Non, tout à fait. C'est-à-dire que là, on est passé. D'ailleurs, ça a provoqué chez les anciens de l'époque certaines révoltes. Hein. Les jeunes étaient pour. Enfin, on pense à Michel de Baptiste, notamment avec la Révolution silencieuse. Il disait il faut absolument que nos techniques évoluent. Et donc, je pense que on a fait des progrès scientifiques et techniques fantastiques. Mais là, encore une fois, on n'a pas su prendre le virage à temps, je pense. On en parlera plus tard.
Alors, avant d'y venir, en effet, il faut peut-être expliquer, Jean-Paul Simier, que c'est aux États-Unis que se développent les fameux CAFOs, les Concentrated Animal Feeding Operations, qui sont des grandes installations d'élevage intensif, qui sont apparues en réalité dès les années 30.
Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser tout de suite que l'élevage dans le monde est très divers. Vous avez un élevage paysan de polyculture élevage, par exemple en Europe, et vous avez dans les pays du Nouveau, ce qu'on pourrait appeler les pays du Nouveau Monde, dont on pourrait mettre les États-Unis si on veut là-dedans, après la conquête des Amériques, des pays qui sont beaucoup plus vastes, donc ont une dotation, comme disent les économistes, de dotation en facteurs de production beaucoup plus importants, notamment la terre, parce que la terre est un capital essentiel dans l'agriculture. Et donc, vous avez aux États-Unis, très vite, une organisation à grande échelle de l'élevage. Alors avec une composante parfois très intensive, mais aussi très extensive. Alors sur ces fameux CAFOs là, alors que les professionnels aussi, on voit aujourd'hui, si vous avez des parcs à engraissement d'animaux qui peuvent faire 5 000, 10 000 têtes auprès des plaines céréalières, mais ces animaux sont nés dans les rocheuses, donc système extensif, et ensuite ces animaux sont envoyés parqués dans des plaines, dans des parcs importants, donc dits feedlots. Alors c'est pas un système qu'on trouve en Europe, ou très peu. Donc effectivement, des États-Unis viennent même des techniques, encore une fois, comme on l'a évoqué tout de suite, de sélection génétique, mais pas toutes les techniques. Il y a aussi des techniques qui sont propres à l'Europe, mais je pense qu'on va y revenir dans la diversité. Il y a une très grande diversité encore aujourd'hui des systèmes d'élevage dans le monde.
C'est Jess Jewell qui érige le premier bâtiment destiné à l'élevage de poulets, donc dans les années 30, le fameux CAFO. Et au même moment, un fermier du Colorado qui invente donc les feedlots destinés à l'engraissement des bovins au grain. Jean-Louis Rastoin, peut-être un mot sur ce phénomène de concentration qui émerge aux États-Unis.
Oui, écoutez, en économie, on appelle ça les économies d'échelle, hein, c'est-à-dire que plus l'établissement d'élevage ou l'établissement industriel est grand, et plus les coûts fixes sont répartis sur des volumes produits importants. Donc on diminue les coûts fixes, hein, et il fallait faire de l'alimentation pas chère. Donc le critère, c'était ça, hein, le coût le moins élevé possible. Mmh. Et donc on concentre et encore une fois et les autres aspects environnementaux, etc., ne sont pas du tout pris en compte à l'époque.
Et ces progrès, Jean-Louis Rastoin, ils sont également permis par des politiques publiques de soutien à la filière de la viande. Oui. Et cela dès les années 60, comme on peut l'entendre ici.
Je veux insister sur les décisions qui ont été prises il y a quelques mois et qui ne sont peut-être pas encore suffisamment connues du grand public, et qui ont mis à la disposition du gouvernement des crédits très importants pour la réforme de nos abattoirs. Il est incontestable que la transformation de notre réseau d'abattoirs, qui était particulièrement vétuste en général, est une des conditions essentielles de la réforme des circuits de commercialisation de la viande. En quelques années, cet objectif sera maintenant atteint, et je pense que nous avons là les perspectives d'une réforme en profondeur qu'attendent évidemment l'ensemble des producteurs comme des consommateurs.
Joseph Fontanet, secrétaire d'État de l'Industrie et du Commerce, ce sont donc aussi les politiques publiques qui vont favoriser l'expansion du secteur de la viande en France. Jean-Paul Simier.
Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant de voir, alors qu'aujourd'hui on débat de nouveau des abattoirs en France, notamment sur la question animale, enfin le bien-être animal. À l'époque, on posait la question un peu différemment, c'est-à-dire que les abattoirs étaient trop petits, il y avait encore de l'abattage à la ferme ou dans l'arrière-cour du boucher. Donc la puissance publique décide, pour à la fois des raisons sanitaires, mais aussi des raisons d'organisation et de productivité, comme on l'a déjà dit, de réorganiser tout cela. Et ça nous amène, de fil en aiguille, si je puis dire, 50 ans plus tard, à des systèmes d'abattage extrêmement organisés, rationalisés, peut-être trop, puisque c'est aujourd'hui le débat qu'on a de nouveau publiquement, des abattoirs dits industriels, enfin industriels, et donc, mais c'était, ça répondait bien à une volonté politique et un impératif, encore une fois, de nourrir la population et à pas trop cher.
Jean-Louis Rastoin, au cours des années 60, il va y avoir 4 lois sur l'élevage qui vont voir le jour en France.
Oui, la loi fondatrice, en fait, c'est Edgar Pisani, hein, le ministre du Général de Gaulle, ministre de l'Agriculture, s'appelait la loi d'orientation agricole, et qui a contribué à la modernisation de tous les secteurs de l'agriculture en France, et particulièrement l'élevage. Et je dois dire aussi que c'était dans la foulée de la création du marché commun agricole en 58. Hein. Ensuite, la politique agricole commune est venue renforcer tout ça. Et il y a eu encore un coup d'accélérateur vers la concentration avec la réforme Macchary de la politique agricole commune en 1992.
Et en même temps, d'un côté, les autorités publiques vont effectivement favoriser l'industrie de la viande et en même temps pousser les Français à manger plus de viande. Le journaliste Fabrice Nicolino rappelle que dans les années 60, il y avait un programme quotidien d'incitation à la consommation de viande qui était diffusé à la télévision française, un programme intitulé « Suivez le bœuf ». Jean-Louis Rastoin.
Oui, tout à fait.
Il y a ce double phénomène.
Parce que dans mon enfance, on amenait les enfants dans un abattoir pour qu'ils boivent du sang. Et il y avait ce mythe de la fortification par le sang et la chair. Bon, on ne doit pas le qualifier de mythe, parce qu'il y a des fondements scientifiques quand même aux qualités nutritionnelles des viandes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Hein. Il ne faut pas aller trop loin non plus dans l'abolition de la consommation de viande. Mais c'est certain que Il fallait renforcer les êtres humains autant que renforcer les secteurs économiques. Hein. Ça fait partie de la sortie de la pénurie, tout ça.
Ces politiques de soutien à la filière de la viande, elles étaient nécessaires, selon vous, Jean-Paul Simier, dans un contexte de concurrence internationale déjà forte. Le président Kennedy mettait en place un système de subvention à la même époque.
Bah oui, Jean-Louis Vincent vient de le rappeler, la création de la politique agricole commune en 62, c'est un choix politique, voire géopolitique majeur. C'est le choix de l'Europe qui était alors en construction, de nourrir elle-même sa population, plutôt que de faire dépendre l'alimentation des Français et des Européens des importations. Schéma dans lequel les Américains, notamment, qui se voyaient comme la grande puissance, déjà à l'époque agro-exportatrice, auraient tout à fait convenu. C'est-à-dire, on aurait importé de la viande d'Amérique du Sud, du blé d'Amérique du Nord, et puis finalement, on aurait eu une agriculture résiduelle en France. Ça n'a pas été le choix politique qui a été fait. Donc le choix, il a été de soutenir la production agricole, d'abord pour des questions de sécurité alimentaire, au sens peut-être plus quantitatif que qualitatif, mais aussi peut-être qualitatif quand même. On sait que, par exemple, le débat sur les hormones, on nous oppose très fortement encore aujourd'hui aux Américains. On a deux conceptions totalement différentes. Puis aussi des questions d'organisation. Dans votre premier reportage, il était évoqué le côté obscur du marché de la viande. Donc, pour la puissance publique, ça a toujours été une nécessité, depuis la nuit des temps, je dirais, même avant les Égyptiens, si je puis dire, d'organiser les marchés agricoles, stocker les blés, organiser les marchés de bétail, gérer les problèmes sanitaires, c'est une nécessité politique au sens d'organisation de la cité, si je puis dire.
Et alors cette concentration des exploitations dont on a parlé, qui commence dès les années 30 et peut-être même avant, cette tendance va s'accélérer dans les années 80, Jean-Louis Rastoin, et devenir véritablement le modèle dominant. C'est l'essor du capitalisme agricole.
J'irai pas jusque-là. Hein. On est encore très largement en Europe et en France en particulier sur le modèle de l'agriculture familiale, même si l'agriculture capitaliste a une petite place. Hein. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Dans les années 50, on était au-dessus de 3 millions d'exploitations agricoles en France. On va vers les 300 000, là. Hein. Donc, une division par 10 est extrêmement important. Hein. Alors, il faut insister beaucoup là-dessus parce que on a parlé du bénéfice consommateur avec une diète de plus complète, hein, plus diversifiée grâce à la viande. Mais il y avait aussi cet objectif de parité des revenus qui était inscrit dans la politique agricole commune. C'est-à-dire que l'agrandissement des exploitations permet d'améliorer les revenus et d'investir dans la modernisation des exploitations. Tout ça se tient.
Et alors, face à l'émergence des grandes exploitations capitalistes, dont vous nous dites que c'est vraiment le début de l'émergence, les petites exploitations agricoles familiales disparaissent les unes après les autres, même si en France, ce caractère familial se perpétue, Jean-Louis Rastoin, dans une certaine mesure.
Oui, il se perpétue, mais il y a une inquiétude hein, quand même, parce que bon, c'est le phénomène d'accaparement des terres que l'on voit dans le monde entier, surtout dans les pays en voie de développement, qui ont un potentiel en terre important, mais on le voit aussi en Europe et en France. Il y a des investissements, en particulier chinois, sur des achats d'exploitations en France, qui laissent présager, peut-être, hein, on en parlera dans la prospective, mais une financiarisation de l'agriculture, c'est-à-dire une marche forcée vers l'agriculture de firmes capitalistes, ce qui pose énormément de problèmes. Hein. Je crois que c'est incompatible avec l'activité agricole parce que la financiarisation change complètement les objectifs. La financiarisation, ça veut dire du profit à court terme. Hein, ce serait même inférieur à l'année, hein, puisque pour les firmes industrielles, le rapport financier est trimestriel. Et puis deuxièmement, une exigence de taux de profit très élevé. Et on parle de 15% de retour sur action, etc.
On va revenir sur la financiarisation, Jean-Louis Rastoin. Mais d'abord, peut-être Jean-Paul Simier, un mot sur le fait qu'on observe cette concentration aux États-Unis, en particulier dans l'élevage porcin, puisque le nombre d'éleveurs de porcs est passé de 600 000 environ en 1980 à 30 000 aujourd'hui, alors même que la production est plus élevée.
C'est ça. J'évoquais tout à l'heure la grande diversité de l'élevage dans le monde. C'est tout à fait vrai. Et là, on voit bien que les systèmes sont totalement en train de d'éclater dans des sens totalement opposés. Vous avez des pays comme, enfin, traditionnellement libéraux comme les États-Unis, le Canada ou plus traditionnels, mais aussi l'Amérique du Sud, qui sont partis sur quand même un système de grosse exploitation, même s'il reste encore aussi des petites exploitations. Vous avez l'Europe qui elle est encore dans un système de polyculture élevage, avec essentiellement encore des exploitations familiales. Et puis vous avez, c'est l'ironie de l'histoire, les anciens pays dits communistes ou collectivistes, comme la Chine ou désormais la Russie, qui se sont lancés dans une course à tout va sur des élevages, des méga-élevages, plusieurs milliers de truies, plusieurs dizaines de milliers de bovins, des millions de volailles, etc., qui sont dans un libéralisme encore plus poussé que les pays traditionnels.
Ce phénomène de concentration, il pose en tout cas toute une série de problèmes. Je vous propose d'écouter Aurélie Trouvé, elle est ingénieure agronome et coprésidente du conseil scientifique d'Attaque France.
Plus qu'agro-industrie, c'est plus encore l'agro-business qui me semble important de décrire, avec d'abord l'idée d'une mainmise de plus en plus forte des multinationales sur l'agriculture et l'alimentation. Elles ont mis la main sur le négoce, elles mettent même la main aujourd'hui sur la production agricole même, en finançant par exemple des fermes géantes de 10 000, 20 000, 30 000 vaches en Asie et ailleurs. Bien sûr, les 1000 vaches, c'est un extrême aujourd'hui, mais d'abord, il faut savoir qu'il y a des dizaines de projets de ce type-là en France et qu'en plus, on va inexorablement vers ce type d'agriculture capitaliste. Et là, vraiment, les mobilisations qui sont en train de se montrer contre ces projets montrent que nous n'en voulons pas. Alors, il est inadmissible, d'abord, il crée 3 à 5 fois moins d'emplois qu'une exploitation agricole classique de lait. Ensuite, il pose plein de problèmes du point de vue du bien-être animal, mais aussi du point de vue sanitaire, parce que on va concentrer les animaux au même endroit, donc ça pose des problèmes de gestion des effluents d'élevage, de risques supplémentaires d'épidémie. Les citoyens veulent autre chose et consomment quand ils le peuvent autrement.
Aurélie Trouvé parle donc d'une mainmise de plus en plus forte des multinationales sur l'agriculture. Les firmes, Jean-Louis Rastoin, cherchent à contrôler désormais l'intégralité de la filière de production jusqu'à la commercialisation.
Oui, je voudrais compléter ce qu'a dit Aurélie Trouvé avec l'exemple de la méga farm de Mundanjiang en Chine. Un projet, enfin c'est plus qu'un projet, ça existe. 100 000 vaches, 9 millions d'hectares. Bon, c'est pour l'élevage laitier, hein. Mais il se trouve que les Chinois viennent de dire c'est trop grand, on peut pas maîtriser justement ce qui était indiqué, les pollutions, hein, et puis ça posait des problèmes sociaux, enfin de gestion du personnel, etc. Donc on revient un petit peu en arrière. Alors c'est vrai que cette tendance à la concentration, elle concerne beaucoup le stade de transformation industrielle, hein. Et dans ce secteur, il y a eu un véritable bouleversement. Il y a 30 ans, les géants, c'était des géants américains comme Armour et Swift, hein, qui faisaient de l'abattage, transformation de la viande. Aujourd'hui, je vous donne la liste des 5 leaders mondiaux de la viande. Le premier, c'est un Brésilien, JBS. Le deuxième, c'est un Américain, Tyson Foods. Le troisième, c'est un groupe canadien qui s'appelle le WH maintenant, et anciennement Smithfield. Le quatrième, c'est Pilgrim's Pride, également États-Unis. Et le cinquième, c'est à nouveau un groupe brésilien qui s'appelle BRF. Et ces 5 firmes totalisent 127 milliards de dollars de chiffre d'affaires, hein, ce qui est tout à fait considérable comme concentration. Et moi, je parle souvent d'oligopole à frange. C'est-à-dire, il y a une poignée de firmes qui pilotent le marché mondial. Là, c'est ces 5 ou ces 10, hein, peu importe. Et puis tout autour, il y a encore un tas de PME ou de firmes de dimension nationale qui souffrent et qui vont probablement être absorbées si les politiques agro-industrielles ne changent pas.
Jean-Louis, Jean-Paul Simier, pardon, vous parleriez-vous aussi d'oligopole à frange pour le secteur de la viande ?
Oui, enfin, pour l'instant, on est encore dans un système assez éclaté. C'est-à-dire que pour ce qui est de la France, par exemple, l'enjeu est plutôt pour les firmes françaises, pour partie coopérative d'ailleurs. Une coopérative, c'est un outil de production qui appartient à une communauté d'agriculteurs, hein, qui ont investi ensemble. C'est le troisième secteur entre l'économie capitaliste et anciennement collectiviste. C'est ce troisième secteur. Bon, il y a quand même des très grosses entreprises en France qui dominent le marché, notamment dans le secteur des viandes, qui sont des entreprises coopératives. Je pense par exemple, moi qui viens de Bretagne, à la Coperl dans le domaine du porc, qui est investi aujourd'hui, qui va jusqu'à investir en Chine. Bon, le modèle, après, on peut le discuter, mais en tout cas, c'est pas un système capitaliste pur et simple. Il y a des entreprises, sinon, à capitaux familiaux, par le numéro français de la viande, ça s'appelle Bigard, c'est encore une entreprise aujourd'hui qui n'est pas sur les marchés financiers pour l'essentiel, qui ne sera peut-être demain, mais aujourd'hui qui est encore une entreprise à capitaux familiaux. Et donc l'enjeu aujourd'hui, par exemple, pour les entreprises françaises, c'est plutôt l'intégration européenne. Avec l'euro, ça s'est accéléré, c'est évident. Les marchés sont de plus en plus ouverts, sauf marche arrière, type Brexit, demain, dans d'autres pays, on va plutôt continuer sur une intégration de ces pays. Et donc, la question est de savoir quelle firme dominante aujourd'hui en Europe, avant de parler tout de suite des grandes firmes internationales.
Jean-Louis Arrastoin, il faut peut-être effectivement parler de la différence entre les États-Unis et l'Europe sur ce point, et en même temps expliquer qu'on passe de structures simples, comme vous l'expliquez, à de structures beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes, avec l'apparition de holdings.
Oui, tout à fait. Effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Signé. Hein. Il y a une situation spécifique en Europe qui peut être un atout. Alors, j'insisterai sur ces deux points. Premièrement, le modèle gouvernance de l'entreprise. L'économie sociale et solidaire, et la coopération, la mutualité, etc., sont des formes de gouvernance qui correspondent tout à fait à quoi aspire la société civile aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose à préserver et à renforcer. Et je suis également tout à fait partisan de jouer une carte européenne, c'est-à-dire des regroupements à l'échelle européenne. Bon, ce qui va nécessiter, comment dirais-je, une évolution dans les politiques commerciales, notamment l'attitude à l'OMC, etc. On parle beaucoup aussi aujourd'hui de régionaliser la mondialisation. Et je crois que vraiment, il faut aller dans cette direction. Parce que les grandes firmes que j'ai évoquées, ce sont des firmes qui tablent sur la réglementation ou la déréglementation OMC, plutôt. Et deuxièmement, qui tape sur des produits globaux. Donc, il n'y a aucune spécificité. Bon, ça dessine quelle stratégie potentielle pour les entreprises européennes. C'est la différenciation qualitative.
Alors, justement, quel est aujourd'hui l'état du marché mondial de la viande? La production totale de la viande connaît une constante augmentation, Jean-Paul Simier, mais l'augmentation de la production de volailles ou de porc, par exemple, a été beaucoup plus importante que celle du bœuf au cours des 30 dernières années?
Oui, on assiste à un phénomène assez inédit à l'échelle de l'histoire humaine, si je puis dire, parce qu'en gros, jusqu'au début du XXe siècle, la consommation de viande était assez limitée, hein. Hormis quelques pays occidentaux, le reste de la planète mangeait peu ou voire pas de viande, comme en Asie, par exemple, beaucoup de pays d'Asie. Donc, la consommation et la production de viande a été multipliée par 5. Aujourd'hui, c'est 320 millions de tonnes, par 5 en 60 ans. C'est considérable. Et les prévisions de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, prévoient encore une augmentation. Alors, les prévisions varient, mais en gros, de l'ordre de 40 à 50% d'ici à 2050. Alors, aujourd'hui, la consommation de viande, la croissance ne se fait plus dans les pays occidentaux. Elle se fait dans les pays dits en développement, qualification FAO, on pourrait plutôt, plus exactement, les pays dits émergents. C'est-à-dire dans ces pays où il y a 2 milliards de personnes avec la mondialisation depuis le début des années 2000 ou la fin des années 90, qui sont sortis de la pauvreté et qui se mettent à consommer de la viande. Je dirais que pour un Chinois, en partie la Chine est un moteur de cette croissance, pour un Chinois aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir sa propre voiture, bien sûr son smartphone, et si possible manger de la viande tous les jours.
Entre 90 et 2010, la consommation de viande a bondi de 55% par personne en Chine. Donc le régime alimentaire a été complètement transformé.
Voilà, tout à fait. Et l'autre grande nouveauté dans cette évolution du marché de la viande, c'est que dans les années 60, la production de viande était encore essentiellement basée sur des animaux type bovins ou ovins, moutons et donc vaches, essentiellement nourris à base de fourrage, hors exception dans les feedlots américains, mais c'était plutôt l'exception. Et depuis la fin des années 80, le début des années 90, la croissance se fait avec les viandes à base de grains, les granivores, c'est-à-dire le porc et surtout la volaille. La viande du 21e siècle, pour moi, c'est la viande de volaille, qui était une viande de luxe au Moyen-Âge, en France, encore dans les années 30 aux États-Unis, et qui est devenue aujourd'hui la viande du quotidien dans toutes les fast-foods et autres KFC qui inondent la planète.
On a une hausse de la demande de viande dans les pays émergents, mais aussi une hausse de la production. Par exemple, la Chine a produit à elle seule aujourd'hui près de 50% de la production mondiale de porc.
Oui, alors la Chine c'est un pays très intéressant. C'est un pays qui traditionnellement élevait et consommait du porc. Donc effectivement, la Chine 1,3 milliard d'habitants fait à elle seule la moitié de la production mondiale de porc, c'est-à-dire un peu plus de 50 millions. Mais aujourd'hui, elle peine à autosuffire à son alimentation parce que du fait de la croissance économique, les Chinois mangent plus de viande parce que on ne l'a pas dit, mais un modèle qui a longtemps fonctionné, et je crois qu'il fonctionne encore toujours aujourd'hui, moins en Occident, mais il fonctionne dans les pays émergents, c'est il y a une corrélation très forte entre l'augmentation du niveau de vie et l'augmentation de la consommation de viande. Et donc la Chine aujourd'hui sort de ses frontières, si je puis dire. Non seulement elle produit plus dans des élevages géants comme on l'évoquait tout à l'heure, hein. Il y a dans le sud-est de la Chine, il y a un projet d'élevage de plus de 6000 truies sur 6 étages. Vous avez des porcheries à étages, donc c'est absolument des choses inimaginables ici en Europe. Mais cette production ne suffit pas à nourrir la Chine, et donc on voit la Chine, et ça c'est la grande nouveauté. Moi qui regarde depuis très longtemps le marché des viandes, depuis plus de 20 ans, c'est la nouveauté des 5 dernières années, c'est l'apparition, je dirais même l'irruption brutale de la Chine dans les échanges internationaux. Et si bien qu'aujourd'hui, la moitié des exportations européennes de viande porcine vont vers la Chine.
Jean-Louis Rastoin, sur la place de la Chine et peut-être sur le fait que la production augmente aussi au Brésil, et même si en Europe et aux États-Unis, la croissance de la production, pour le coup, est un peu plus modérée.
Oui, tout à fait. Là, sur les 330 millions de tonnes de production mondiale en 2016, le leader, c'est la Chine, hein, 90 millions de tonnes, plus 61% dans les 20 dernières années. C'est considérable. Et juste derrière, en termes d'augmentation, on a le Brésil et la Russie. On n'a pas parlé encore de la Russie, mais la Russie fait partie de ces fermes du monde du futur, hein, qui a beaucoup investi, mais sur un modèle fortement capitalistique. Et bon, il faut quand même tirer un petit peu la sonnette d'alarme, parce que la France est le numéro 9 mondial de production de viande, un peu moins de 6 millions de tonnes, hein, je parle toutes catégories confondues, et c'est le seul pays dans les 15 premiers dont la production a diminué de 25%. Tous les autres pays sont en plus, nous on est en moins. Donc il faut vraiment s'interroger sur la stratégie pertinente pour redéployer l'élevage, d'autant plus qu'on en aura besoin pour les problèmes environnementaux, comme on va l'expliquer un peu plus tard.
Vous parlez d'une baisse de la production, Jean-Louis Rastoin, mais il y a aussi une baisse de la consommation en France. Une étude du Crédoc publiée en septembre parle d'une diminution de 12% en 10 ans. Et alors souvent, les raisons qui sont invoquées, c'est l'élevage intensif, les risques de l'élevage intensif pour l'environnement la hausse des prix qui est continue depuis 2002.
Il faut regarder de près les statistiques, hein, parce que, si vous voulez, si on regarde la consommation totale de viande, qu'elle soit fraîche, ou la viande de boucherie, ou transformée, par exemple à travers les plats cuisinés, etc., il y a une stagnation depuis 1990 à peu près. On est au-dessus de 32 milliards d'euros de dépenses. Hein, c'est plat tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le bœuf s'effondre. Et les viandes transformées grimpent très très vite. Et bon, ça pose ce problème de l'ultra transformé d'ailleurs, qu'on évoquera, je pense, un peu plus tard. Hein. Mais on dit que la consommation plonge, mais en fait, le total de viande fraîche et transformée est plat. Il n'augmente plus, mais il est à peu près stabilisé. Hein.
Et ce recul de la consommation, Jean-Paul Simier, c'est dû à cette hausse des prix importante? Et comment expliquer cette hausse des prix?
C'est aussi le mur des estomacs, si vous voulez. On consommait plus de 90 kilos de viande par an et par habitant en France. Alors je précise tout de suite que la statistique de la consommation de viande, c'est basé sur des kilos équivalents carcasse. Alors en général, on mange pas les os, donc les os sont compris dans les statistiques, donc il faudrait les enlever. Pour être plus démonstratif, si vous voulez, une vache qui pèse 700 kilos vif, lorsqu'elle est abattue, elle ne pèse plus que 400 kilos avec les os, en carcasse, et in fine, le consommateur va consommer 300 kilos de viande. Donc il faudrait déjà préciser ces statistiques. Mais nous étions à plus de 90 kilos, comme la moyenne mondiale est à 34, et la Chine à 53, et l'Afrique simplement à environ 10 kilos. Donc il est évident qu'il y a une limite à tout, et que la consommation stagne, voire régresse un petit peu à ces niveaux qui sont aujourd'hui très importants, c'est pas non plus étonnant.
Et la baisse de la consommation de viande en Europe, en tout cas, est compensée par la hausse de la demande dans les pays émergents.
Tout à fait.
On constate au niveau mondial.
Je répète, les deux tiers de la croissance aujourd'hui mondiale de la consommation de viande se fait dans les pays émergents.
Hey, écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. C'était Chimp des Pink Floyd. Nous sommes toujours avec Jean-Paul Simier et Jean-Louis Rastoin en duplex de Montpellier. Alors le modèle alimentaire agro-industriel dont nous parlons depuis le début de cette émission est de plus en plus contesté. Écoutons Benoît Hamon s'exprimer 2 ans après l'affaire des lasagnes au cheval qui avait défrayé la chronique en Europe en 2013. Il était alors ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation.
Tout le monde peut s'improviser trader en viande du jour au lendemain et échanger des pains de minerais de viande comme ça d'un trader à un autre pour les vendre au meilleur prix ensuite. Donc il y a là une logique qui est une logique du marché qui a produit cela. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, ils sont commercialisés sous la forme de des plats préparés à des prix qui défient toute concurrence. Comme se poser la question quand on achète des lasagnes ou des cannellonis et qu'elles sont à 1,50€, 1,60€, 1,70€ le kilo, faut se poser la question de comment ceux et celles qui ont contribué à préparer et à commercialiser ces plats, comment chacun marge.
Alors on va reparler de l'affaire de la viande de cheval en tant que telle, mais ce qu'elle a permis de révéler, comme le dit Benoît Hamon, c'est la financiarisation croissante du marché de la viande, Jean-Louis Rastoin.
Oui, la financiarisation, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi le mécanisme de fonctionnement des filières avec les marchés spot, c'est-à-dire des marchés instantanés, sur lesquels on joue sur du papier, ou plutôt maintenant du numérique, hein. Donc c'est complètement virtuel, on achète et on vend en l'espace de quelques secondes, et il y a là-dedans des opérateurs tout à fait indélicats, évidemment, qui ne regardent que le profit qu'ils vont faire entre achat et vente d'un contrat papier. Et ça, évidemment, ça pervertit complètement le système. Et là, on est dans le domaine de la fraude, hein, qui normalement devrait être puni par la justice. Mais c'est très compliqué d'attraper ces gens-là, etc. Mais bon, ça a ruiné une entreprise, ça a détruit des emplois, etc. C'est quelque chose d'extrêmement choquant et qu'il faudrait réguler davantage.
Et ce qu'on observe, en tout cas, c'est que depuis une dizaine d'années, de nombreux capitaux ont été injectés dans la production de viande dans le Sud, Jean-Paul Simier.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance de la production, parce que croissance de la consommation de viande, se fait dans les pays émergents. Alors la Chine, ça c'est un fait nouveau, considérable. La Chine apparaît dans tous les marchés, y compris celui du pétrole ou du soja. La Chine jette 70% du commerce international du soja. Donc lorsqu'il y a une guerre entre Monsieur Trump et Monsieur Xi sur des questions commerciales, il est évident que ça fait bouger tous les marchés agricoles. Mais aussi des nouveaux pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire les Philippines, l'Indonésie. L'Indonésie, c'est 250 millions d'habitants qui se mettent à consommer de la viande. Même l'Inde, on n'en a pas encore parlé, qui est traditionnellement vu comme un pays peu consommateur de viande. Les hindous, la religion hindoue interdit la consommation de vaches. Mais aujourd'hui, l'Inde est devenue le premier exportateur mondial de viande bovine. Parce que le buffle, ce n'est pas de la vache. Et donc, on peut faire de l'élevage de buffle dans certaines parties de l'Inde et l'exporter en Malaisie. Donc, c'est du commerce intra-sud, si je puis dire. C'est plus du commerce nord-sud ou nord-nord. C'est du commerce intra-sud de viande bovine. Qui l'aurait cru qu'il y a 20 ans que l'Inde serait le premier exportateur mondial de viande bovine. Donc on est dans un monde qui change complètement. Le monde a faim de viande et en particulier les consommateurs des pays du Sud ont faim de viande et c'est ça qui se passe aujourd'hui.
Et donc on a par exemple Goldman Sachs et la Deutsche Bank qui vont investir massivement dans la production porcine en Chine. On injecte donc des capitaux et on délocalise la production. C'est ce qui explique donc en partie l'essor de cette production de viande industrielle dans les pays du Sud. Jean-Paul Simier, sur les délocalisations, là vous avez énormément d'exemples.
Oui, alors on évoquait tout à l'heure l'émergence des grandes firmes mondiales, parce que j'ai tempéré en disant que pour l'instant il y a une intégration européenne, mais il est vrai qu'aujourd'hui le numéro 1 mondial de la viande, c'est un Brésilien, et le numéro 2, Wang Yi, c'est un Chinois qui a racheté une entreprise américaine qui s'appelle Smithfield. Donc il est évident qu'il y a des consolidations mondiales. Alors maintenant, et ça revient, on revient de ce fait aussi sur le steak de cheval, la viande de cheval si je puis dire, la viande c'est un produit très particulier, parce que c'est pas un produit stockable facilement comme le blé ou le sucre, c'est un produit fragile. Et aujourd'hui, la viande, il faut la conserver dans des frigos. Avant, on salait la viande, mais ça, c'est terminé pour l'essentiel. Ou le corn-beef, mais c'est aussi très résiduel. Donc, l'essentiel de la viande est commercé sous forme de congelé ou réfrigéré. Et donc là, je pense que dans les années à venir, il peut y avoir beaucoup d'obstacles à la libre circulation de la viande et donc peut-être une forme de re-régulation, si je puis dire, autour de la qualité des produits, le contrôle. On n'a pas encore parlé des maladies animales, mais la peste porcine, la grippe aviaire,
justement,
etc.
J'allais y venir parce qu'effectivement, l'industrie de la viande n'est pas une industrie comme les autres à cause de ces crises sanitaires qui ont jalonné son histoire. La crise de la vache folle en 96 et 2000, la fièvre aphteuse en 2001, la grippe aviaire fin 2005. Quel a été l'impact de ces crise à répétition, à la fois sur la production et sur la consommation, Jean-Louis Rastoin?
C'est un impact considérable sur les aspects productifs. Sur la consommation, lorsqu'on regarde les séries longues de statistiques, ça a été une accentuation du phénomène de déclin que on a évoqué tout à l'heure dans les pays riches. Je précise à cet égard que lorsque tout à l'heure je parlais de stabilité du marché de la viande en France, c'était en monnaie constante, en euros constants, et pas en poids. C'est sûr que le poids diminue, mais lorsqu'on achète un plat cuisiné, eh bien on paye beaucoup plus cher que si on préparait à la maison, etc. Alors je reviens sur ces crises, c'est extrêmement important. Bon, 1996, c'est l'ESB, hein, il y a 20
donc
ans.
Donc l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Voilà, vulgairement appelée la crise de la vache folle. Il y a eu très peu de dégâts humains, finalement, heureusement. Hein. Il y a eu 200 cas environ de contamination, mais une dizaine de décès seulement dans toute l'Europe, si je puis dire. Hein. Chaque décès est regrettable. Mais sur la production, ça a été un cataclysme, puisqu'on a abattu plus d'un million de bovins à l'époque. Ça a coûté près de 4 milliards d'écus aux caisses communautaires. Et le marché s'est effondré de 30%. La première année et d'environ 10% la seconde. Et après, on a repris le trend de la décroissance que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça, c'est un exemple intéressant, mais vous évoquiez tout à l'heure les crises sanitaires aussi. Et on a un système d'alerte européen qui est très performant. Il faut que, lorsque une viande pénètre sur le territoire européen, il y a une notification lorsqu'il y a un risque sanitaire. Mmh. Il faut savoir qu'en 2017, d'après l'Union européenne, il y a eu 942 notifications de risques sanitaires. Et là-dessus, on a une moitié à peu près qui vient des produits animaux, en particulier contamination à la salmonelle, hein, c'est-à-dire qui a été rendue célèbre par l'affaire Lactalis. Mais là, c'était sur de la viande, hein, de volaille. Donc, ces crises sanitaires à répétition font que les modèles productifs évoluent. Et du côté du libéralisme sauvage, si je puis dire, c'est-à-dire outre-Atlantique, on continue à autoriser les antibiotiques, etc., et qui créent des résistances aux antibiotiques pour les humains. Et on a des méthodes, comment dirais-je, un peu un peu cow-boy, hein, c'est le cas de le dire, qui ne sont pas tolérées en Europe, heureusement. D'où les dissensions. Hein.
On va y revenir, Jean-Louis Rastoin. Oui. Mais d'ailleurs, donc, d'abord, les crises sanitaires, il y a les crises sanitaires d'une part, les crises alimentaires, comme celle des lasagnes fin du sous Spanghero, qu'on évoquait tout à l'heure. Il s'agissait là d'une fraude commise à l'échelle européenne, comme vous l'avez dit, visant à faire passer de la viande de cheval pour de la viande de bœuf en modifiant l'étiquetage sur des lots de minerais de viande. Écoutons à ce propos la réaction de José Bové.
En tout état de cause, aujourd'hui, il est clair qu'on a affaire à une véritable mafia. C'est un trafic organisé qu'on vient de découvrir, puisque ça dure depuis plusieurs mois. De nombreux pays sont concernés. Moi, je ne peux pas imaginer que les intermédiaires ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, pourquoi on met de la viande de cheval? C'est parce qu'elle est 3 fois, 4 fois moins chère que la viande de bœuf, parce que les cours du cheval se sont effondrés en Roumanie. Donc, il y avait du business à se faire, et ça se fait sur le dos des consommateurs de manière parfaitement inacceptable. Mais le fait qu'on ait autant d'intermédiaires, là, on parle d'un Chypriote, un Néerlandais, qui d'autres encore, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais il est évident aujourd'hui qu'on voit que plus les circuits sont longs entre le producteur et le consommateur, plus il y a des chances que des systèmes mafieux rentrent dans la chaîne. Et en même temps, si on ne fait pas attention à chaque niveau, quand les produits arrivent, quand ensuite ils sont emmenés à la transformation, on voit bien que le système agro-industriel a des failles et que là, il va bien falloir renforcer tous les mécanismes de vérification, pas simplement sanitaires, mais aussi d'origine.
Alors Jean-Paul Simier, est-ce que c'est un scandale qui interroge toute la chaîne de production? Et autre question, est-ce que la multiplication de ces crises sanitaires et alimentaires ne nécessite pas de repenser justement notre modèle?
Nous avons en Europe le système d'alerte, de surveillance et de sécurité alimentaire sans doute le plus perfectionné au monde. Donc évidemment, on trouve, je pense, plus qu'ailleurs, lorsqu'il y a des problèmes, ces choses-là. C'est pas le cas dans les pays du Sud, on en est loin. La Chine est un pays où les scandales alimentaires sont très très fréquents, mais encore très difficilement suivis. Et bien sûr, les États-Unis, c'est aussi, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux d'alerte. Alors quand je dis ça, ce que je pense, si vous voulez, que lorsqu'il y a fraude, effectivement, il faut la détecter et la punir. Hein, c'est ce qui vient d'être dit. Mais il ne faut pas non plus généraliser le principe de cette fraude à l'ensemble des filières viande aujourd'hui en Europe. Je pense que là, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Donc, évidemment, il faut mettre en place des systèmes de surveillance. Et l'autre élément supplémentaire deux autres éléments supplémentaires qui jouent dans cette affaire, c'est d'une part le fait qu'aujourd'hui, les consommateurs consomment plus de produits transformés, moins de produits bruts, que ce soit pour les légumes, pour la viande, pour les poissons, etc. Et donc, évidemment, ça rallonge la filière industrielle. Mais ça renvoie aussi à nos modes de consommation, d'une certaine façon. Hein. Mmh. Et puis, d'autre part, le marché étant de plus en plus vaste, de plus en plus international, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de contrôler aujourd'hui ce qui se passe que lorsque nous étions dans un marché franco-français ou encore même uniquement européen. Maintenant, on est dans un marché mondial. Et là, ça pose la question, on l'a évoqué tout à l'heure, compatibilité entre mondialisation tout azimut et alimentation. Je pense que là, il y a une vraie question à se poser.
Et puis à ces crises sanitaires et alimentaires, s'ajoute le fait que l'industrie de la viande est caractérisée par son impact très lourd sur l'environnement. On commence à l'évoquer tout à l'heure, Jean-Louis Rastoin, selon un rapport de la FAO paru en 2012, l'élevage est responsable d'environ 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sans compter évidemment les déforestations massives que cela entraîne, Jean-Louis Rastoin.
Oui, tout à fait, il y a un problème critique. Hein. Je pense que le chiffre de la FAO est un peu exagéré. Enfin, sur la France, on estime qu'il y a 16% de pollution à effet de serre par l'agriculture. Et dont 10% pour l'élevage à peu près, hein, mais c'est quand même considérable. Alors ce qu'on omet de dire, c'est que il y a certes une pollution qu'il faut absolument limiter, mais c'est aussi un puits de carbone l'élevage, hein, à travers les prairies, la couverture du sol, etc. Donc un tiers de ces émissions sont récupérées, si je puis dire, par le couvert végétal, ce qui est très important. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on peut pas continuer dans ce modèle agro-industriel qui est très intensif, avec beaucoup de prédation sur les ressources naturelles, destruction de la biodiversité. On n'a pas parlé de ce phénomène, mais dans la viande, c'est un peu moins vrai, mais pour l'élevage laitier, si vous voulez, la quasi-totalité du cheptel en Europe aujourd'hui, et ça fait tache d'huile dans le monde entier, hein, c'est la Holstein, hein, c'est la race Holstein qui est très productive, qui peut faire 10 000 litres de lait par an. C'est formidable, hein, c'est une vraie vache à lait, c'est le cas de le dire. Mais au prix d'un système d'élevage qui est extrêmement intensif et à base de soja et de maïs, avec une stabulation entravée, etc. Hein. Donc tout ça est quelque chose qu'on ne peut pas continuer.
Jean-Paul Simier, peut-être sur cette question de la pollution ou de la disparition croissante des races locales.
Je dirais d'une part, le problème numéro un, c'est certains parlent d'anthropocène. Hein, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans un temps de la planète où c'est l'homme qui modifie le climat et l'ensemble de l'écosystème. Alors je dirais que l'agriculture fait partie de l'humanité et donc comme on est de plus en plus nombreux, c'est d'abord le premier phénomène. Malthus peut-être avait tort, mais pas peut-être totalement, effectivement, l'empreinte écologique est de plus en plus importante, puisqu'il faut nourrir de plus en plus de monde. La croissance de la consommation de viande dans les 30 ans qui viennent, c'est pas la hausse de consommation de viande par habitant, c'est la croissance de la population. C'est à peu près 100 millions de personnes de plus par an et par habitant. Donc ça, c'est un vrai phénomène. Donc, à partir du moment où on est plus nombreux, c'est comme pour la voiture, c'est comme pour le gasoil. Il faut trouver des solutions moins destructrices pour l'environnement et donc être plus économe au niveau de l'environnement sur toutes les ressources naturelles. Alors le problème de l'agriculture et de l'élevage, c'est qu'on est en prise directe avec l'écosystème. Donc le problème de l'eau, le problème de l'air, le problème des sols. Moi je pense qu'il y a, encore une fois, j'insiste là-dessus, une grande diversité de l'élevage aujourd'hui. Il ne faut pas donner l'impression aux auditeurs qu'on aurait un seul système qui est en train de se répandre sur la planète, qui serait le système agro agro-industriels venus d'Amérique du Nord et qui inonderaient l'ensemble de la planète. Vous prenez l'Afrique, par exemple, aujourd'hui, vous avez encore un élevage pastoral de subsistance qui est loin, si vous voulez, de ce dont on vient de parler. Donc, il faut recombiner simplement, je dirais, peut-être l'agriculture et l'élevage, ce qu'on appelle la polyculture-élevage.
Mais alors l'impact sur l'environnement, il est causé principalement par ce modèle agro-industriel. Alors justement, comment moraliser cette industrie de la viande? Et est-ce que les exigences croissantes des consommateurs, notamment en termes de qualité, pourraient l'obliger à aller dans ce sens, Jean-Louis Rastoin?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui est en route, hein, et que la grande distribution a été évidemment la première à comprendre, puisqu'elle est au contact direct avec le consommateur. Aujourd'hui, il y a une perception très claire, on le voit dans les sondages consommateurs, de la priorité à donner à la santé. Et donc de plus en plus de suspicions vis-à-vis de la qualité nutritionnelle et sanitaire tout court de notre alimentation. Alors qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, avec ça? Eh bien, la grande distribution réagit, hein. Je parle souvent de signaux remontants, depuis le consommateur vers l'agriculteur et en amont vers l'agrofourniture. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. La grande distribution, c'est le commerce. Hein. Comme disait Brodel, c'est du vif argent. Ça réagit très très vite, sinon ils disparaissent, évidemment. Et donc, eux, ils ont réagi. Ils sont en train de mettre en place avec la coopération de Google, je crois, ou Amazon, je ne me souviens plus, des systèmes de traçabilité beaucoup plus perfectionnés. L'industrie de transformation est juste avant. Déjà, les inerties sont plus lourdes parce qu'il y a des investissements, etc. Et l'agriculture, encore plus de conservatisme, si je puis dire. Donc tout ça doit être revu. Et vraiment, le consommateur fait bouger. Vous avez entendu parler des applications sur la qualité nutritionnelle. Yuka, par exemple, 6 millions de téléchargements. Il y a des réactions immédiates du commerce.
Et Jean-Louis Rastoin,
il faut absolument que l'ensemble de la filière suive.
Et vous proposez, quant à vous, de mettre en place un modèle alimentaire de proximité, même s'il risque d'entraîner une relative baisse de la productivité.
Oui, tout à fait, si vous voulez. Bon, de toute façon, on aborde, après l'Anthropocène qui a été évoqué ici, une nouvelle étape. On parle beaucoup de transition alimentaire, comme on parle de transition écologique et énergétique, mais tout ça est lié. C'est-à-dire qu'il faut inventer une nouvelle façon de consommer et de produire. Alors, la nouvelle façon de consommer, c'est effectivement de baisser, mais pas dans des proportions énormes, la consommation de viande. Hein, si vous voulez, les nutritionnistes nous disent que dans les protéines consommées, la moitié doit avoir une origine animale et l'autre moitié une origine végétale. Hein. Dans les pays européens, on est à peu près à 60% de protéines animales. Donc on a une marge de manœuvre pour diminuer cette consommation de viande et la substituer par des légumineuses, par exemple. Mais moi, je ne suis pas partisan de supprimer complètement, comme certains, la consommation de viande, parce que les médecins vous disent quand même, notamment pour les femmes enceintes, les enfants, etc., ça apporte des acides aminés essentiels, des métaux, etc.
Jean-Paul Simier, donc ça, c'est... pardonnez-moi, on arrive presque au terme de cette émission. Jean-Paul Simier, peut-être un dernier mot sur l'avenir de cette filière de la viande.
D'accord avec ce que vient de dire Jean-Louis Rastoin. Simplement, j'ajouterais, aujourd'hui, la croissance de la consommation de viande, ce sont dans les pays du Sud, les pays émergents. C'est comme pour le pétrole. Comment ça va-t-il se passer dans ces pays? Sont-ils prêts à diminuer ou du moins raisonner leur consommation? Je n'en suis pas sûr. En revanche, il y a un autre élément qui peut jouer, c'est la technologie. Hein, aujourd'hui ou hier, les États-Unis viennent d'autoriser la viande in vitro. Donc l'esprit humain est sans limite, si je puis dire. Alors je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais il est évident qu'on peut aussi trouver des gains de productivité pour diminuer les pollutions, en particulier dans les productions de viande blanche.
On en reparlera dans notre émission jeudi. Un grand merci à tous les deux. C'est l'heure de retrouver Arjuna Andra pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'un des symboles de cette industrialisation de l'élevage, la fameuse ferme des 1000 vaches.
Exactement. Lancée officiellement en 2014, la ferme cristallise depuis ses débuts de nombreuses critiques quant à son caractère démesuré. Il faut dire que ce projet d'étable géante situé près d'Abbeville dans la Somme se destinait à accueillir 1750 bovins, dont 1000 vaches laitières et 750 veaux et génisses. En juillet 2013, le préfet préfet de la Somme avait cependant limité à 400 le nombre de bovins autorisés dans l'exploitation, un chiffre qui se rapportait à 700 en 2016 avec l'intervention de Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie. L'élevage hors sol et intensif permet également, génie de l'innovation, de produire de l'électricité à partir du fumier des bêtes. Ainsi, dans ce dispositif, rien ne se perd, tout se transforme, les bêtes ne sont pas seulement traitées comme la variable d'ajustement d'un système de production industrielle du lait, leur corps, leurs déjections sont mises à contribution pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines et de l'exploitation.
Un type d'élevage encore peu fréquent en France.
Oui, la France conserve aujourd'hui encore, exception notable en Europe, un véritable tissu de petites fermes laitières familiales ancrées sur tout le territoire. Fort de ce maillage local, l'élevage laitier reste le premier secteur agricole avec 90 000 chefs d'exploitation, un chiffre qui ne cesse cependant de baisser face aux difficultés importantes que connaissent les éleveurs face à la folle mise en marché du lait. Les concepteurs des 1000 vaches revendiquent pour leur part s'être inspirés des exploitations géantes allemandes et des méga-centres d'engraissement italiens où sont envoyés nombre de nos veaux français. L'objectif est donc clairement de s'inscrire dans cette concurrence internationale pour tenir la dragée haute à nos concurrents étrangers. Le projet est d'ailleurs soutenu par l'État au nom du développement économique et industriel de la région. Il s'insère en réalité dans une logique plus large de modernisation de l'outil productif français. Comme si l'on pouvait comparer le bétail et les lignes de production, on s'est donc lancé dans une course effrénée vers des exploitations toujours plus grandes, toujours plus mécanisées, autant de signes indubitables de notre modernité.
Un argument économique d'ailleurs repris par le tribunal de Douai pour justifier le maintien de l'activité du site.
Oui, alors que les opposants au projet demandaient la fermeture du site, la cour administrative d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'autorisation d'exploitation compte tenu, je cite, des graves conséquences économiques et sociales qu'elle entraînerait pour la société exploitante et pour les salariés. Un argument économique que l'on pourrait entendre s'il ne servait pas de leitmotiv pour justifier des activités socialement ou écologiquement inacceptables. Les associations en lutte contre le projet dénoncent ainsi les conditions déplorables dans lesquelles les animaux sont élevés.
Des maltraitances dont a d'ailleurs témoigné un ancien salarié de l'exploitation.
Exactement, dans un article paru en 2015, le site d'information Reporter rapportait ainsi le témoignage d'un ancien employé de la ferme-usine expliquant que dans le troupeau, au moins 300 vaches boitent. Elles sont fatiguées, maigres, ont des sabots qui pourrissent. Elles marchent à longueur de journée dans leurs excréments. Les responsables refusent de mettre du produit pour soigner les bêtes car cela coûte trop cher. Résultat, il y a deux ou trois vaches qui meurent chaque semaine. La mainmise du capitalisme et de son discours sur les réalités de l'élevage en somme. Interrogé par Reporter, le responsable de l'exploitation nie évidemment toute maltraitance, déployant un argumentaire implacable, je cite « Une vache, ça vaut de l'argent, ce n'est pas dans notre intérêt de les faire mourir, elles sont donc bien soignées. Quand quelqu'un perd une vache sur 50, ça fait mal, mais c'est vrai qu'avec 700 vaches, on peut en perdre 14. » Implacable donc. Ballotté d'une décision de justice à l'autre, la ferme des 1000 vaches semble aujourd'hui devenue le symbole absolu des errances de l'agriculture. L'exploitation cristallise ainsi les oppositions et illustre toute la difficulté pour l'élevage de se réinventer et de définir une identité qui allie à la fois la nécessité d'en vivre et le goût du travail bien fait.
In the town, he looked that menu through and through to see what a dollar bill might do. One meatball, one meatball, one meatball. All he could get was this one meatball.
One Meatball de Calvin Russell. Merci beaucoup Jean-Paul Simier et Jean-Louis Rastoin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Jean-Louis Rastoin, je rappelle votre livre La sécurité alimentaire mondiale, état des lieux et prospective, publié chez L'Harmattan. Un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Montpellier qui ont permis ce duplex. Demain, on se glisse dans les abattoirs pour tenter de mieux comprendre le malaise de la profession. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast et nous écrire sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.